morceau de Gobino, Akrivi Frangopoulo, Naxi. Les Cyclades sont un des endroits du monde auxquels l'épithète de séduisant s'applique avec le plus de vérité. Pourtant, beaucoup d'entre elles peuvent être qualifiées en toute justice de rochers stériles. Mais au sein de ces mers de la Grèce, où la main des dieux les a semées, ces rochers brillent comme autant de pierres précieuses. La lumière qui les inonde au milieu d'une atmosphère sans tache et les flots d'azur qui les enchâssent en font, suivant les heures du jour, autant d'améthystes, de saphirs, de rubis et de topazes. La réalité est stérile, pauvre, assez nue, certainement mélancolique, mais ses inconvénients s'effacent sous une majesté, une grâce incomparables. Les Cyclades donnent l'idée de très grandes dames, nées et élevées au milieu des richesses et de l'élégance. Aucune des somptuosités du luxe le plus raffiné ne leur a été inconnue. Mais des malheurs sont venus les frapper, de grandes, nobles malheurs. Elles se sont retirées du monde avec les débris de leur fortune. Elles ne font plus de visites, elles ne reçoivent personne. Néanmoins, ce sont toujours de grandes dames, et du passé, il leur demeure comme le suprême raffinement interdit aux pourvenus, une sérénité charmante et un souvenir adorable. Il y a quelques années, la corvette de guerre anglaise, l'Aurora, venant de Corfou et naviguant à la voile, suivant les sages prescriptions de l'amirauté et avare de son charbon, se trouvait un matin, un peu avant le jour, au beau milieu de l'archipel dont il est ici question. Le commandant Henry Fitzalan Norton dormait sur sa couchette quand un timonier, dépêché par le navigateur, officier, vint le réveiller. « Monsieur, monsieur !» Au son de cette voix bien connue, le commandant avait ouvert les yeux et répondait « Qu'est-ce que c'est ? Monsieur, on voit Naxi !»« C'est bon !» répondit Norton. Et comme il avait fait le whist assez tard dans le carré, il se retourna sur son lit avec l'intention de se rendormir, ce qui ne lui fut pas permis. Quelque chose de noir et de velu s'éleva lentement du bord de la couchette. Le bruit d'un bâillement prolongé se fit entendre, et tandis qu'une langue énorme s'avançait vers son menton avec le désir évident de le faire disparaître sous sa surface rose, des yeux aussi intelligents que des yeux de chien peuvent l'être, le regardaient en face et lui disaient « Au nom du ciel, éveillez-vous donc, j'ai assez dormi. » « Eh bien, puisqu'il le faut, répondit le commandant, je me lève. »« Dis donc, je me lève. » Et en effet, le commandant se leva. L'aube allait paraître, mais il ne faisait pas jour encore. La bougie, qui éclaira bientôt de son lumière parcimonieuse la hâtive toilette de Henry Norton, tomba sur les objets accumulés dans la chambre de bord, de façon à les faire plutôt deviner que reconnaître. Rien n'est moins gai qu'une pareille habitation, bien qu'il soit à la mode parmi les habitants tenaces de l'intérieur des terres de s'extasier sur le luxe naval. S'agit-il d'un navire de guerre français, l'appartement accommodé sur un patron aimant, variable comme l'infaillibilité administrative, et peint en blanc avec des baguettes dorées reproduites à profusion comme dans un cabinet de restaurateur, et le mobilier est rouge, à moins qu'il ne s'agisse de loger un vice-amiral. Devant cette considération puissante, l'administration maritime faiblit pour mieux triompher, et alors tout devient inévitablement jaune. Les lois des Perses et des Mèdes, les arrêts de Minos, n'avait rien de plus absolu. Sur la table s'étagent régulièrement quelques journaux, un annuaire de la marine et c'est tout, à moins que l'officier, père de famille, n'ait tenu à orner les cloisons çà et là de photographies domestiques. Dans la marine anglaise, le goût individuel a plus de latitude. Les chambres des commandants ne sont pas toujours revêtues de la même couleur. La volonté de l'habitant peut en décider. Il y a moins de cloisons et de petits trous, moins de portes se fermant sur des réduits de 4 pieds de large, plus de rideaux laissant circuler l'air et le jour, et, ce qui est caractéristique et curieux, on y contemple fréquemment des tableaux, des objets d'art et surtout des livres. Sous ce dernier rapport, le logis de Henry Norton était riche en dépit de sa petitesse. Des gravures d'après d'anciens maîtres d'Italie, 2 ou 3 petites toiles achetées à Messine et à Malte, et partout où l'on avait pu assujettir des tablettes, des volumes de différentes grosseurs et épaisseurs. Traités de mathématiques, livres d'économie politique, histoire, philosophie allemande, romans nouveaux, tout cela s'alignait, se pressait, se foulait, se montait l'un sur l'autre, il entraînait encore sur les chaises. Henry Norton était un admirateur passionné de Dickens et de Tennyson, ce qui n'empêchait pas de faire consciencieusement son métier, de le faire bien savoir. Arrivé à 33 ans, avec une jolie figure blonde et douce, il parlait peu, songeait beaucoup, rêvait assez, présentait ce mélange si commun chez ses compatriotes d'esprit positif et d'esprit romanesque et d'énergie, et fort avancé dans sa carrière, puisqu'il était déjà capitaine de vaisseau, il ne s'amusait pas dans le monde d'une manière bien remarquable. Cependant, aucune disposition au spleen n'avait jamais apparu chez lui. Quand il fut habillé, il monta sur le pont et du pont sur la passerelle. Le lavage réglementaire était en bon train et la rumeur des seaux d'eau lancés à tour de bras et le bruissement sonore des faubères faisaient leur tapage accoutumé. Norton rendit silencieusement le salut que lui adressa le navigating officer, enveloppé dans un paletot comme un digne homme arrivé à la fin de son quart de nuit, et promena les yeux sur la scène ouverte autour de son navire. L'aube se levait et donna vivement à Norton l'impression de la sagesse extrême des poètes du passé qui ont vu et décrit l'aurore avec des doigts de rose. En général, aucun pays au monde ne porte si bien à personnifier les phénomènes de la nature que les pays du Levant. Tout s'y manifeste avec une telle netteté, s'y détache avec une telle précision, y déploie tant de vie, y rêvait tant de charme, qu'on trouve naturel de s'imaginer les portes du jour ouvertes par une charmante fille, et l'astre lumineux triomphalement porté à travers les plaines célestes par les chevaux fougueux et brillants du plus beau et du plus intelligent des dieux. La mer, calme, d'un calme profond, bleue comme une pervenche, non ridée mais plissée coquettement pour faire miroiter sur son sein les faisceaux de la jeune lumière ruisselant d'en haut en cascades étincelantes, allait chercher bien loin, au bout de l'horizon oriental, ce qui restait des nuances délicates du crépuscule du matin. Elle se teignait à plaisir et dans un cercle de plus en plus large de cette pluie de fleurs safranées ou d'un rose pâle, et peu à peu le safran devint orange, le rose se parsema d'écarlate, des filons d'or coururent de toutes parts et une clarté éblouissante, chaude, dominatrice, électrisa la nature entière. Çà et là se montraient des îles, les unes plus près, les autres plus loin. Des formes douces, arrondies, fines, dessinaient les contours de ces terres montagneuses. Là, c'était Paros, ici, sa sœur Antiparos, et plus loin, dans la vapeur, Santorin. Enfin, en face, Naxie, la belle Naxie commençait à mettre en relief non plus seulement son plan général, mais ses sommets, ses collines, ses vallées, ses gorges, ses rochers, et on voyait s'avancer la ville, blanche comme une fiancée. Il fallut cependant quelques heures encore pour l'atteindre. La brise était extrêmement faible et le navire marchait peu. En attendant, Les détails de la côte se révélaient à chaque instant d'une manière plus sensible. On aperçut l'entrée du port se creusant entre les rochers, et sur la droite, ce petit îlot stérile, encore riche de quelques pans de murs antiques, reste d'un temple d'Hercule. Les maisons baignaient leurs pieds dans l'eau, s'étageant les unes au-dessus des autres comme les loges d'un amphithéâtre, et par-dessus ces bâtisses plébéiennes, s'élevait, avec plus de bonhomie que de grandeur, l'ensemble d'habitations qu'on nomme la citadelle ou le château, et que des restes d'anciens remparts écroulés ou employés à faire de nouveaux logis rendent encore assez dignes d'une appellation devenue néanmoins un peu ambitieuse. Cet aspect était frais, gai, aimable, accueillant. L'Aurora continuait à s'avancer avec lenteur vers cette rive hospitalière quand survint un incident sur lequel on ne comptait pas et qui faillit changer du tout au tout le caractère paisible de cette arrivée. Au moment tout même où la corvette franchissait l'entrée du port, une vive bouffée de brise accourut du large et se jeta étourdiment au travers des voiles grandes ouvertes au peu d'air qui avait soufflé jusqu'alors. Le navire affolé prit sa course, et comme il n'était pas à 300 mètres de la côte rocailleuse, il allait inévitablement s'y briser, quand le commandant donna rapidement un ordre. L'équipage entier sauta sur le pont, du pont sur les vergues. L'action s'exécuta de façon si prompte que des douzaines de bonnets et de chapeaux s'envolèrent et vinrent parsemer la mer. Mais la moindre toile fut carguée en un instant et l'Aurora s'arrêta subitement, pas assez tôt toutefois pour qu'une petite partie de son bordage n'eût labouré la pierre. Néanmoins, ce n'était pas à proprement parler une avarie, ce dont chacun se félicita. Et quand on eut constaté que le péril évité ne laissait derrière lui qu'une quasi-nécessité de s'arrêter en Axie pendant 5 à 6 jours au plus, afin de remettre quelques planches, comme d'ailleurs la machine avait besoin aussi de réparation, le commandant et les officiers, au lieu de déplorer l'accident, furent enchantés. L'ordre fut donné de mouiller, et tandis que l'on exécutait, on vit monter à bord 2 personnages qui demandèrent à parler au commandant. Ces nouveaux venus étaient l'un et l'autre en habit, pantalon, gilet noir, cravate blanche, et tenaient à la main le chapeau de feutre en usage parmi toutes les nations civilisées. Mais ce costume, peu remarquable en lui-même, frappa extrêmement Henry Norton, car dans l'espèce il présentait l'aspect le plus absolument archaïque auquel ce mode de vêtement puisse atteindre. L'observateur le plus superficiel ne pouvait faire moins que de lui assigner, comme date la plus récente, 1820 au plus près. Des collets énormes et bosselés, des manches froncées et larges du haut, très étroites du bas, une taille courte, des basques démesurées, des pantalons à la cosaque, les gilets de soie noirs extrêmement ouverts, eussent tiré des larmes d'attendrissement des yeux de Georges Brummel s'il avait pu revenir au monde pour contempler ses souvenirs de sa jeunesse. Les cravates amples, larges, étoffées, de 6 pouces de hauteur, ornées de nœuds savamment étudiés et d'une complication à faire perdre la tête à un gabier, se couronnaient avantageusement de 2 cols de chemise empesés qui devaient être certainement une lutte perpétuelle des bords du chapeau, quand celui-ci recouvrait le chef des remarquables possesseurs de cette précieuse garde-robe. Mais en ce moment, les chapeaux reposaient dans les mains de leur maître. Il ne faut d'ailleurs pas plaindre ces instruments singuliers, hauts chacun d'un pied et demi, garnis de bords d'une largeur redoutable. Ils étaient de taille à se défendre, et à leur aspect poilu et hérissé, leur donnait une physionomie farouche. Norton resta frappé d'admiration devant cet appareil. Il se rappela les héros d'un autre âge Et il eut besoin de faire un effort pour concentrer son attention sur les physionomies des deux arrivants. Elles étaient des plus respectables et des plus dignes. Toutes deux se ressemblaient en ce point que les cheveux étaient taillés, comme les habits d'après le goût antique, de façon à former sur les tempes des accroche-cœurs comparables aux pavillons ornementaux dont s'accompagnent les grands monuments, tandis que de vastes toupets gris, s'élevant avec noblesse sur le sommet de la tête et couronnant la largeur du front, rappelaient encore mieux ces frontons rigides qui signalent au respect des peuples les tribunaux de première instance. Voilà ce que les deux insulaires avaient en commun. Pour le reste, ils différaient. Celui qui marchait le premier était petit, un peu gros, assez haut en couleur, l'air souriant et heureux. L'autre, au contraire, élancé, extrêmement maigre, d'un teint un peu jaune, paraissait souffrant et triste, mais résigné. Norton ne put se défendre de leur trouver des physionomies extrêmement distinguées. Leur figure vieillotte n'appartenait pas au premier venu. Il lui passa dans l'esprit des réminiscences de certains types de gentilshommes français et italiens rencontrés par lui dans sa première jeunesse. Sous l'empire de cette impression et désireux de savoir jusqu'à quel point elle était justifiée, il fit descendre ses visiteurs dans sa chambre et s'enquit poliment de ce qui les amenait. Le naxiote gros et gai s'annonça comme étant M. Dimitri de Moncade, agent consulaire de Sa Majesté britannique. Il venait offrir ses services et présenta son compagnon et ami, M. Nicolas Frangopoulo, consul des villes hanséatiques. La conversation, naturellement, avait lieu en grec. Henry Norton parlait couramment cette langue grâce à un séjour de plusieurs années dans les mers du Levant, et ni M. de Moncade ni M. Frangopoulo ne savaient le moindre mot d'un autre idiome. On a pu entrevoir, d'après ce qui a été dit déjà du commandant de l'Aurora, qu'il était d'un naturel curieux et cherchant l'instruction. L'apparence des deux personnages assis dans sa chambre de bord l'avait suffisamment excité pour qu'il tînt à en savoir un peu plus long sur leur compte, ne fût-ce que pour servir d'introduction à ses futures observations touchant l'île de Naxie. Il dirigea donc l'entretien de façon à se renseigner autant que la politesse le pouvait permettre, et ses efforts ne furent pas infructueux. Voici, en bloc, ce qu'il apprit par pièces et par morceaux. Monsieur l'agent consulaire de Sa Majesté britannique devait son emploi à ce fait que son père et son grand-père l'avaient jadis exercé avec honneur. Naturellement, il était rémunéré par l'éclat qui en rejaillissait sur sa personne et aucune indigne considération de lucre ne s'y rattachait. Il avait connu l'amiral Codrington et gardait facilement le souvenir d'un déjeuner auquel elle avait pris part à bord du bâtiment monté par ce grand homme de mer vers le temps de la bataille de Navarin. Environ une fois tous les 7 à 8 ans, quelques navires de guerre anglais passaient à Naxie et venaient réjouir sa vue. En 1836, un voyage à Athènes l'avait mis en mesure d'apprendre une foule de choses intéressantes dont il ne s'était jamais douté jusqu'alors. Il demanda à Henry Norton des nouvelles de sa grâce, le duc de Wellington, et se montra extrêmement peiné d'apprendre que cet illustre capitaine avait cessé de vivre. Il rappela ses mérites extraordinaires en quelques sentences bien choisies, et ce fut probablement la dernière oraison funèbre prononcée sur les cendres du vainqueur de Waterloo. Cette pénible émotion s'étant un peu dissipée, M. de Moncade offrit quelques observations sarcastiques contre les Français en général et contre l'esprit révolutionnaire en particulier, et, sans se prononcer nettement, il laissa entrevoir qu'en ce qui le concernait, il trouvait peu de plaisir au souvenir de la guerre de l'indépendance hellénique, attendu que le gouvernement d'Athènes jugeait à propos d'envoyer un éparque dans l'île, tandis que jamais, au grand jamais, tant que le sultan avait régné sur l'archipel, on y avait vu un turc, grand ou petit. Pour lui, il estimait que les vieilles familles, les gens de race noble, c'est-à-dire d'origine européenne. Il était incapable d'oublier que ses ancêtres étaient venus du Midi de la France, où il était possible que leur nom existât encore, et il savait, de science certaine, qu'aucune mésalliance n'avait altéré la pureté du sang circulant dans ses veines. M. de Moncade, plus vif et plus causant que M. Frangopoulo, prenait soin le plus souvent de parler au nom de ce dernier. Ainsi, Norton apprit que celui-ci n'était pas moins bon gentilhomme que le consul de Sa Majesté britannique, malgré son nom de consonance grecque, ce qui d'ailleurs portait témoignage en sa faveur, puisqu'il signifie « un fils de franc », le nom réel de la race ayant malheureusement été perdu et oublié. Toutes les opinions politiques et sociales de M. de Moncade étaient partagées par son ami, qui les appuyait d'un signe de tête. Mais il s'en fallait que cet ami eût une aussi grande érudition sur les choses de ce monde. De sa vie, il n'était sorti de l'île. Il représentait les villes hanséatiques au même titre héréditaire que M. de Moncade faisait la Grande-Bretagne. Mais moins heureux que celui-ci, il n'aurait même jamais vu de ses yeux mortels un citoyen de la puissance allemande à laquelle il appartenait, si en 1845, un brick de commerce hambourgeois chargé de planches ne s'était laissé emporter hors de sa route par un coup de vent et jeté sur les roches d'Antiparos. Il en était résulté un naufrage où la cargaison avait été perdue. Mais on avait sauvé les hommes et le capitaine Peter Gansman avait, après un séjour d'un mois à Naxie, laissé entre les mains de M. Frangopoulo un certificat par lequel il informait la postérité la plus reculée, dans le but de servir à tous que de raison, que M. de Frangopoulo était l'homme le plus honorable qu'il eût jamais rencontré et l'avait nourri, lui et son équipage, pendant son séjour forcé dans l'île, générosité d'autant plus méritoire, ajoutait le reconnaissant capitaine, que ce digne consul lui avait paru vivre dans un état voisin de la misère. Sans être trop optimiste, on peut croire que beaucoup de bonnes actions ont été récompensées dans ce bas monde. M. Frangopoulo, du moins, obtint la sienne en ce sens que le séjour du capitaine Gansman fit époque dans son existence. Comme celui-ci ne parlait qu'allemand, il ne communiqua pas beaucoup d'idées nouvelles à son hôte, mais il resta le héros de l'événement capital dans les fastes de la maison consulaire, et l'esprit du vieux gentilhomme travailla sur ce thème de manière à en faire une sorte de conte des mille et une nuits. Il estimait d'autant plus son certificat qu'il n'avait jamais trouvé occasion de le faire traduire, et ne se doutait pas plus de ce qu'il disait que si on lui eût mis dans les mains les quatre livres de Confucius en original. L'imagination de Henry Norton n'avait pas besoin de beaucoup d'aide pour s'exciter. En cette circonstance, elle se monta d'elle-même au seul contact de ces six singuliers personnages. Une île de l'archipel grec dans toute sa grâce merveilleuse, représentée par deux vieux débris de la noblesse européenne, ces deux vieux débris ne parlant que le grec, ne sachant quoi que ce soit de ce qui se passait dans le vaste monde, en ce temps de bavardage où chacun est plus au fait des affaires d'autrui que des siennes propres, et par cette ignorance singulière, semblant vouloir prouver que leur habitation, éloignée seulement de quelques heures d'Athènes, se trouve plus loin, en fait, de l'univers civilisé que les provinces centrales de l'Amérique, c'était là un de ces paradoxes violents tels que le capitaine de l'Aurora les adorait. Cependant, celui-là lui parut si fort qu'avant d'en savourer le charme, il en voulut avoir la démonstration, et ses amis improvisés ne se firent pas prier pour la lui administrer complète. Aucun bateau poste ne circule entre la plupart des îles et la Grèce continentale, et pour cela, Pour cette raison excellente que ces petits territoires, ne possédant ni commerce, ni industrie, ni importation, ni exportation, ne donnent lieu à l'échange d'aucune correspondance. Chaque quinzaine seulement, une goélette part de Syrah pour Paros, y porte quelque peu de lettres ou de paquets à ses désignations, et quand, par un hasard fort rare, il s'en trouve pour Naxie, une barque quelconque s'en charge à loisir. Ce mode de circulation suffit parfaitement. De la sorte, les journaux arrivent dans l'île. Mais quel intérêt peuvent-ils exciter chez des gens confinés chez eux et n'ayant nulle envie d'en sortir, ne disant jamais rien, ne sachant rien des choses de ce monde, et ne se souciant pas d'en rien savoir, ne possédant que des vignes, des oliviers, des orangers, des grenadiers, et par-ci par-là quelques moutons, et vivant comme l'homme d'Horace dans une médiocrité, laquelle d'ailleurs n'est pas dorée. Tout au plus, ces philosophes pratiques ramassent-ils au hasard, dans ce qu'ils apprennent, de la sorte, à bâton rompu, quelques sujets de conversation peu passionnants. Et c'est ainsi que, trop pauvres pour avoir besoin de personne, suffisamment vêtus et nourris sous un ciel délicieux pour n'éprouver aucune souffrance, dans cette ravissante indigence, indolents avec conviction, fiers du passé et sachant garder la dignité nécessaire au présent, les gentilshommes naxiotes vivent paisiblement et ne s'en estiment pas d'un grain au-dessous des hommes les plus agités de la société moderne la plus remuante. Naturellement, ils ont en commun avec les habitants de l'Hellade une vénération solide pour l'origine du pays qu'ils habitent, et le rayonnement de cette gloire planant sur leur tête, ils en réclament une part de propriété, mais c'est surtout au temps des croisades qu'ils aiment à se reporter. Alors fut fondé le duché français des Cyclades, et les chevaliers se firent des fiefs dans les îles. La plupart des gentilshommes de Naxos font remonter leur généalogie à cette époque. Mais là, beaucoup se trompent. Le duché français a passé depuis lors par bien des péripéties. Les races conquérantes s'éteignirent successivement et fut remplacé par d'autres également franques à la vérité, mais moins anciennes. Les Vénitiens introduisirent des Italiens en grand nombre. Les aventuriers français et espagnols du XVIIe siècle apportèrent leur appoint. Des Grecs également. Bref, quand le dernier héritier de la maison ducale européenne eut été contraint de déposer son pouvoir entre les mains des Turcs, ceux-ci, à la vérité, ne changèrent rien à la constitution politique de l'île et n'y envoyèrent pas de représentants de l'islam. Ils firent même plus. Ils intronisèrent un duc de leur choix, qui fut un médecin juif du sultan. Mais ce fils de Moïse n'eut pas de successeur et, comme il n'avait jamais résidé dans l'île, son palais, devenu propriété nominale du sultan, fut abandonné et peu à peu démoli par la noblesse elle-même, qui trouva commode de prendre des matériaux à bon marché dans ces constructions qu'on ne réclamait pas, qu'on ne protégeait pas et qu'on ne réparait pas. Et dès lors, le gouvernement du lieu devint tout à fait municipal et républicain entre les mains des vieilles familles et, nobles et peuples, aussi pauvres l'un que l'autre, habitués à vivre ensemble, oubliés de l'univers entier, n'ayant aucun prétexte pour se quereller puisqu'ils n'avaient rien à se disputer, vécurent et vivent encore dans une union si parfaite que le catholicisme des uns, l'orthodoxie des autres, la présence de deux évêques appartenant aux rites ennemis, un couvent de lazaristes français qui est venu, on ne sait trop pourquoi, acheter là des terres, la fondation d'un autre couvent d'Ursuline bourguignonne, rien n'a pu prévaloir contre la douceur obstinée de cette population qui se permet de vivre au XIXe siècle dans une sorte d'état paradisiaque. Lorsque la conversation de ces deux hôtes qu'il avait retenus à déjeuner lui fait comprendre cette situation, Henry Norton, enchanté, fit rapidement ses préparatifs pour descendre à terre et voir de plus près les choses si intéressantes. Après avoir donné ses instructions à son second, il monta dans sa baleinière avec M. de Montcade et M. Frangopulo, et, suivi de Dido, non moins satisfaite que lui de quitter le bord, il se dirigea vers un petit débarcadère en planche, où une partie notable de la population, c'est-à-dire une douzaine de pêcheurs, l'attendait avec une joyeuse curiosité. Quelques femmes tenaient de beaux enfants dans leurs bras. Tout ce monde salua l'étranger d'un air de bonne humeur, et, flanqué de ses producteurs, gravissant un sentier étroit à travers les ruines de toute espèce, les gravats et les places vides, il parvint, après quelques minutes d'une ascension assez roide, jusqu'à une porte surbaissée, dernier reste de la citadelle. Cette issue, un peu sombre, l'introduisit dans une ruelle pavée de dalles. C'était la Grand-Rue. Elle montait en serpentante à travers des maisons à un étage, affectant les formes de l'architecture italienne du XVIIIe siècle. Sur chaque porte étaient gravés des écussons d'armoiries. Ce lieu sombre et frais avait si peu de passants qu'il ressemblait plus à la cour d'une habitation privée qu'à une voie publique. De distance en distance, un mulet chargé de bois, de légumes ou de fruits cheminait en choisissant son terrain avec prudence. M. de Montcade s'arrêta devant une porte voûtée, armoriée à la clé comme les autres, et faisant un profond salut au commandant, il le pria de lui faire l'honneur de se reposer un instant chez lui. Requête aimable, aussitôt accordée que présentée, et poussant un bâton en bois vermoulu, le consul de Sa Majesté britannique à Naxos introduisit Henry Norton dans une vaste salle voûtée, pareille à un de ces celliers où les riches abbayes aimaient jadis en Europe à recueillir les tonneaux et les futailles pleins de leur honneur de leur vengeance. Un jour, on entrait dans ce lieu solennel que par la large baie au milieu de laquelle était pratiquée la porte en bois, et dont le charpentage contenait en outre trois fenêtres de rang. Les murailles étaient crépies à la chaux. Le sol, pavé dans le même système que la rue, avec laquelle il s'unissait absolument, était de plein pied avec elle. Au fond de l'appartement s'étendait un tapis vieux et extrêmement délabré, et là erraient quelques meubles, un bahut en bois sculpté dans le goût vénitien, deux ou trois fauteuils couverts en velours d'Utrecht jaune, des chaises de paille et une table ornée de vases en albâtre de la fabrique de Florence. Des portraits de la reine Victoria et du prince consort, évidemment exécutés par un ennemi mortel de la dynastie hanovrienne, furent signalés au commandant avec un certain orgueil. Peu de chefs-d'œuvre pareils existaient dans l'île. À peine assis, Norton fut pris d'un désir puissant de ne pas passer sa journée à regarder la voûte blanche arrondie au-dessus de sa tête. En conséquence, il consulta ses amis sur la meilleure manière d'employer le temps. On posa en principe qu'on ne le quitterait pas d'une minute, et il s'aperçut que réclamer la solitude serait à la fois désoler ses hôtes et les blesser gravement. Ce premier point ne fut donc discuté qu'autant que la discrétion parut lui en faire un devoir. Norton s'aperçut ensuite qu'il ne lui fallait pas songer à envelopper son séjour dans un incognito impossible. L'apparition d'un bâtiment de guerre dans le port de Naxos était un événement si extraordinaire que toute la vie sociale du pays s'en trouvait affectée. Partout on en parlait. La grande nouvelle volait sur les ailes de la renommée avec une rapidité si prodigieuse qu'avant peu d'instants, Elle allait avoir traversé de part en part les vallons les plus solitaires. Dès lors, rien de plus nécessaire que de satisfaire la juste curiosité des notables et aller montrer aux évêques, aux deux ou trois représentants des plus grandes familles du pays, ce que c'était qu'un commandant anglais, espèce d'entité dont les plus savants avaient entendu parler mais que nul n'avait vu. Ce devoir accompli, on se rendrait à la campagne chez M. Frangopoulo et on y passerait le reste du jour. Les choses ainsi arrangées, Henry se mit en devoir de s'exécuter gaillardement. Sur le pas des portes, hommes, femmes, enfants étaient rassemblés et saluaient l'étranger du meilleur sourire du monde. Ces braves gens avaient l'air de nonchalance et de calme que donnent le loisir et l'absence de besoin. La beauté de la plupart des femmes était saisissante. Un ciel magnifique, une cité pittoresque à l'excès, et toute petite et toute ramassée et toute semblable au nid d'une seule famille. La paix la plus inaltérable, un charme extrême sur beaucoup de visages, la bonne humeur sur tous, voilà ce qui accueillait le nouveau venu, et il n'avait pas l'âme faite de façon à n'en pas être doucement remué et attendri. 2 heures ne s'étaient pas écoulées depuis que les vieux gentilshommes s'étaient présentés sur l'Aurora, et Harry Norton ne les trouvait plus ni ridicules ni même singuliers. Il n'apercevait plus en eux que leur exquise politesse, leur désir de se rendre agréable, la distinction vraie et la noblesse native de leur manière. Dans toutes les visites, du café, des cigarettes furent présentées. Les questions sur l'état de l'Europe eurent leur cours légitime et ses préliminaires indispensables accomplis à la satisfaction universelle, et notamment à celle de Didon, pressés d'en finir, les trois amis quittèrent l'enceinte de la forteresse et le champ de décombres qui en couvrait les pentes pour aller trouver, derrière une masure, 3 mulets mandés par M. Frangopoulo et qui allaient avoir l'honneur d'emporter les voyageurs. Marcher à Naxos dans les sentiers voisins de la mer serait une tâche, sinon impossible, du moins difficile et fatigante. Tout est sable et sable mouvant, fin, profond, des haies épaisses, hautes et fleuries, encadrent ce sol instable et grimpent sur les rochers qui le bordent. On va ainsi pendant plusieurs heures. Le ciel rit, le soleil brûle. Puis les montagnes se découvrent les unes après les autres, arrondies, coupées par des ravins profonds. Quelques chênes verts, des lentisques, au pied des pentes, des ruisseaux d'une fraîcheur adorable et des lauriers roses en foule. Un peu de bétail erre çà et là. Sur les collines se dressent, comme des enfants gracieux qui font les mutins, de petits châteaux carrés d'une blancheur éblouissante, ayant peu de fenêtres et au coin 4 poivrières à toit rond. Quelques-uns sont crénelés. Ces manoirs minuscules, tout à fait féodaux, produisent un effet singulier dans une île grecque. Ce sont des souvenirs du temps où les pirates barbaresques couraient les mers environnantes, tentaient des descentes hardies et, enlevant les belles filles, allaient les vendre sur les marchés de Constantinople, d'Alexandrie ou de Smyrne, donnant ainsi naissance à une quantité de romans dont la presque totalité est restée inédite. Les populations, peu soucieuses de se prêter à ces incidents poétiques, n'osaient habiter sur les plages, et c'est pourquoi, dans tout l'archipel, les habitations planent constamment au sommet des hauteurs et autant que possible sur une élévation dont l'on pouvait découvrir la pleine mer. Rien n'est joli comme ces castels. Ils sont entourés de vignes, d'orangers énormes, de figuiers, de pêchers et de plantations de toutes sortes, fort peu soignées sans doute, mais d'autant plus plantureuses, libres et vivaces. Après avoir marché pendant 2 ou 3 heures, un de ces petits châteaux se montra au penchant d'une colline. plus blanc que les autres, plus attirant, plus élégant, plus coquet, dressant plus finement ses quatre tourillons, entouré d'arbres plus verts, plus touffus, plus chargés de citrons et d'oranges, plus contournés de vignes. Il frappa d'abord les regards de Henry Norton et les retint. Ce fut une sorte de fascination, et quand M. de Montcade, qui portait volontiers la parole, eut m'annoncé que c'était là le but de la promenade, et que, passé un petit pont jeté sur le ruisseau, on allait trouver le domaine de son ami, le voyageur anglais eut l'impression que c'était une sorte de Rubicon qu'il allait franchir et qu'il laisserait sur une rive sa vie ancienne pour, sur l'autre, recommencer une nouvelle existence. Les natures nerveuses non seulement s'ébranlent en mille occasions à propos de tout et à propos de rien, et qui pisait, elles s'abandonnent volontiers à la créance que leurs oscillations sont d'une importance prophétique et leur ouvrent l'avenir. Il arrive, en conséquence, qu'elles s'égarent, mais ce serait un genre particulier de superstition que de réduire en axiome qu'elles se trompent toujours. En tout cas, ceci est certain, Norton s'avança vers le petit manoir, le cœur tout ouvert, l'âme exaltée d'une joie sans cause, et se laissant caresser l'esprit par mille idées, par mille pensées, par mille sentiments, tous plus vifs, plus gais, plus animés les uns que les autres. Naturellement, dans cette île montagneuse de Naxos, on monte constamment ou l'on descend, et ici les promeneurs gravirent encore un sentier caillouteux et tournant, fort roide, et furent ainsi conduits à travers quelques cours et par-devant des maisons de paysans, jusqu'au sommet de l'éminence où était juché le manoir, et mettant pied à terre au bas d'un étroit escalier de pierre, ils atteignirent une terrasse aussi étroite pour entrer dans une salle très semblable à celle que Norton avait déjà admirée en ville chez M. de Montcade. C'était de même un long cellier blanchi à la chaux, voûté comme une église, clair et plus simplement, ou, si l'on aime mieux, plus pauvrement meublé encore. Un sofa bas, recouvert d'indienne, régnait au bout de l'appartement, et de l'autre côté, un escalier en bois, très léger, s'élevait jusqu'à une galerie conduisant à une porte petite et basse, servant d'entrée aux chambres d'habitation de la famille. On devinait de suite qu'aux époques anciennes, où le château avait été bâti sur le haut d'une cime par crainte des surprises des pirates, on avait trouvé bon d'y ajouter la précaution supplémentaire au cas où ces redoutés envahisseurs auraient trouvé moyen de descendre à terre sans être aperçus, de pouvoir leur abandonner le bas de l'habitation en se réfugiant dans le haut, qu'un coup de pied donné à l'escalier suffisait pour isoler. Somme toute, le manoir n'avait que 4 ou 5 pièces et se terminait par une plateforme flanquée des 4 guérites et sur laquelle séchait à ce moment la récolte du maïs. Tout cela fut visité, examiné par Norton dans le plus grand détail, et quand il se fut rassasié de la beauté du paysage étendu autour de la vieille demeure vénitienne, il revint à la grande salle où l'attendait un spectacle d'une autre espèce. La partie féminine de la famille était réunie sur le sofa. Il y avait la mère, Madame Marie Frangopoulo, respectable matrone, fort grasse, peu mobile, faisant rouler gravement entre ses doigts ronds et courts les grains de son chapelet. On lui voyait les grands yeux noirs du pays et un air de calme absolu. Pas l'ombre d'animation, mais quelque 20 ans en ça, elle avait dû être ce qui s'appelle une beauté. La dame, assise à côté d'elle, et que l'on dit à Norton être sa belle-fille, était brune. Elle avait la figure accentuée, avec des cheveux noirs lustrés admirables, un regard d'une profondeur à faire réfléchir. Peut-être n'y avait-il rien au fond, mais c'est un mystère à laisser à l'écart. C'était Madame Triantafylon Frangopoulo. À son jupon se cramponnaient deux petits garçons, l'un châtain et l'autre brun comme elle, tous deux beaux comme des anges, et regardant l'étranger de cet air d'implacable méfiance et de profonde admiration toujours si plein de charme chez les enfants. La jeune femme tenait un troisième bébé sur ses genoux, et celui-là serrait entre ses petites mains roses une orange où se concentraient toutes ses facultés. Une fillette de quelques mois était portée par une petite servante syrienne, et à ce sujet, il faut dire ici que tout le passé des îles se reflète d'une manière bien exacte dans le présent. Aux temps antiques, les Cyclades ont vu s'établir sur leurs plages plus d'Asiatiques que de Grecs, encore plus de Phéniciens que d'Hellènes. Et les antiquités qu'on y trouve montrent moins rarement les idoles difformes de Tyr et de Sidon que les dieux élégants d'Athènes. Mais aujourd'hui, les choses vont à peu près de même. Les Athéniens n'ont pas de hâte pour venir s'échouer sur ces plages, où les séductions de la nature luttent vainement quand on les appelle de la grande Constantinople, de la commerçante Smyrne, de l'opulente Alexandrie. Et de leur côté, les peuples de Canaan n'ont pas été appris les anciens chemins. C'est pour ce motif que l'on rencontre les serviteurs de leur race à Naxos, où ils se mêlent parmi les successeurs des chevaliers de la croisade. Norton examinait en lui-même tous ces détails quand il entendit la porte de la galerie haute s'ouvrir et à l'apparition de la personne qui se présenta, il se crut d'abord le jouet d'un rêve, tant il s'y attendait peu. C'était une jeune fille, plus que modestement vêtue d'une robe de cotonnade brune à pois blanc, taillée et cousue certainement par elle-même, et qui, très impuissante à lui servir de parure, n'était absolument qu'un vêtement. Des manches larges attachées aux poignets, pas de dentelle, de mousseline, rien de plus austère. Une taille élancée, forte, ferme, saine, la carnation d'une des Néréides de Rubens. Des yeux merveilleux, brillants comme des saphirs bleus et de la même transparence que ses pierres, et une chevelure mordorée, épaisse, abondante, tordue et, semblait-il avec quelque impatience de la peine qu'elle donnait pour la soumettre, bien que plus fine que la foi et souple à miracle. La bouche la plus rose, le sourire le plus épanoui, les dents les plus dignes de la comparaison ancienne avec un rang de perles, une candeur adorable et sans tache, se montrant, se prouvant d'elle-même au premier aspect, le calme charmant de la sécurité. Devient-on amoureux du premier coup ou ne l'est-on qu'après plusieurs blessures? Oh, c'est une question discutée entre les doctes. Il semblerait pourtant qu'il en doit être de l'amour ainsi que de la mort, plus faible que lui, au dire du livre saint. Quand on n'est pas tué de la première atteinte, c'est que l'on a été mal navré. Mais le coup qui vous jette à terre pour toujours aurait pu se passer de ceux qui l'ont précédé. Et de même, au moment où l'amour vous terrasse, c'est qu'il avait frappé juste, et ainsi de fait, on se trouve amoureux de la première moment. Norton aurait probablement contredit cet axiome. Jamais les gens fiers n'aiment à se voir renversés à la première étreinte. Pourtant, lorsque la jeune demoiselle, ayant atteint le bas de l'escalier, traversa la longue salle pour venir s'asseoir à côté de sa mère, le commandant jugea nécessaire d'appeler à son secours toute la roideur civilisée afin de couvrir son émotion, et il s'imposa un air froid et compassé, digne du pavillon britannique. Oh, ce ne fut nullement sa faute si la démarche souple, noble, d'une grâce inouïe de la nouvelle arrivée présenta à sa mémoire les mystiques de Vergile sur la façon dont s'avancent les déesses. Oh, ce le fut encore bien moins quand la jeune fille étant assise, il vit les yeux de toute la famille attachés sur les siens et toutes les bouches souriantes avec le plus candide orgueil, tandis que M. de Montcade lui disait, de l'air d'un homme qui expose une vérité incontestable, « Je pense que vous n'avez jamais rien vu d'aussi beau que ma filleule Acrivie. » Chacun parut attendre la réponse du commandant avec une entière confiance. L'objet d'une telle remarque sourit sans nul embarras et parut convaincue elle-même qu'il était impossible de disputer sur ce qui venait d'être dit. Norton, ahuri d'une infraction si exorbitante à tous les usages et aux plus sacrées convenances, prit une attitude embarrassée et fit un salut. On ne saurait absolument répondre qu'il ne sentit pas surgir dans un coin de sa cervelle quelqu'une de ces vilaines méfiances dont les gens cultivés ont provision. Mais si ce malheur lui arriva, il faut répondre à sa louange qui ne permit pas à cette infamie de se produire devant sa réflexion, et tout ce qui en résulta, c'est que par une réaction qui lui fit honneur, il passa sur le ventre du Kant britannique pour répondre paisiblement à M. de Montcade. « Je ne croyais pas qu'il pût rien exister d'aussi parfait que mademoiselle. Ce n'est pas, poursuivit le consul d'Angleterre, que ma filleule n'est de digne rivale dans notre île. Lorsque vous viendrez dimanche à la messe, vous verrez que nos jeunes filles sont jolies. » Mais une autre comme elle ne se rencontre pas, c'est un fait incontesté, et cela ne la fâche pas. Voulez-vous une cigarette? On passa du tabac. Norton se dit, je suis fou, occupé à le devenir. Elle est jolie, à quoi servirait de le contester? Mais fagotée comme on ne l'est pas. Elle me paraît gracieuse, parce que je suis un Naxos et que je la vois à travers un fouillis d'oranger et de laurier rose. Dans un salon de Londres, ce serait différent. Je crois entendre d'ici les bonnes remarques de Lady Jane. Quel massacre! Et puis d'ailleurs, quelle éducation a reçue cette malheureuse enfant? Elle doit être sotte à plaisir. Il faut que je la fasse causer.